Présenté, monsieur Lavé Schoenberger, il parle d'un sujet dont il a, si je ne me trompe, il a parlé souvent, il doit connaître bien, il doit bien connaître, les protestants et le concile.
Monsieur le supérieur général, monseigneur, chers amis, j'ai divisé ma conférence en quatre parties. Tout d'abord, je voudrais faire comprendre ce qu'est le protestantisme dans ses bases, dans ses principes, pour qu'on puisse ensuite tirer des conclusions si éventuellement il y aurait des observateurs, des participants au concile, dans quelle direction leur influence pourrait se manifester. Ensuite, je parle en effet des observateurs, spécialement du rôle du cardinal Béat. Troisièmement, je donne quelques citations, spécialement du livre de Wildken sur le déroulement du concile où l'influence protestante se manifeste. Et quatrièmement, je parlerai de quelques schémas du concile, donc de l'élaboration et ensuite du texte définitif. Or, évidemment, le temps est très avancé. On sera obligé de raccourcir l'un ou l'autre paragraphe. Nous verrons ce que nous pourrons faire. Alors, tout d'abord, donc, le protestantisme selon ses principes. Différence entre catholicisme et protestantisme. Pour comprendre l'orientation et la portée d'une influence protestante éventuellement au Concile Vatican II, il faut avoir assimilé la différence entre le dogme catholique et la doctrine protestante. Et pour assimiler celle-ci, il faut approfondir la notion luthérienne, spécialement du péché originel et de la justification. Pour les réformateurs allemands, qui doit être désigné comme le père de tout le protestantisme dans ses différentes formes, le péché de nos premiers parents n'a pas seulement blessé gravement la nature humaine, il l'a détruite complètement. Il n'y a donc plus de liberté morale. De cet axiome découle la notion de la justification de Luther. Selon lui, la grâce ne pénètre pas la nature, ni la guérit et la sanctifie, car elle ne trouve pas de champ d'action dans la nature humaine détruite. Dieu donc couvre le pécheur extérieurement avec les mérites du Christ comme d'un manteau et le déclare comme juste, tandis que l'homme, en réalité, intérieurement, reste pécheur. Alors, on peut discerner les quatre solis de Luther, intimement liés les uns avec les autres, comme une conséquence. Premièrement, sola gratia. La grâce de Dieu seule opère et achève l'œuvre de notre justification. L'homme ne peut y contribuer en rien, puisqu'il n'y a aucune liberté morale. C'est ainsi que tout effort de sa part est vain, voire même présomptueux. Calvin en tire la conclusion suivante: si la justification de l'homme est l'œuvre de Dieu seul, alors l'homme n'a aucune influence sur son salut éternel. Il n'est donc pas prédestiné par la préscience de Dieu au ciel ou à l'enfer, mais par la seule volonté positive de Dieu. L'absence de tout effort moral personnel supprime nécessairement la réalité et même la possibilité d'un sacrifice expiatoire, en tant qu'il est renouvellement sacramentel du sacrifice de la croix, sacrifice de l'Église et de son sacerdoce ministériel, auquel s'unit le sacrifice personnel de chaque membre du corps mystique. Pour Luther, l'Eucharistie est une pure mémoire de la passion et de la mort du Christ, une pure mémoire. À la rigueur, un sacrifice de louange et d'action de grâce. un sacrifice expiatoire, par contre, doit lui apparaître, selon sa notion de justification, comme une attaque à la grâce de Dieu, attaque contre le Dieu justifiant lui-même. C'est pourquoi il le rejette comme une idolâtrie abominable. On ne peut pas tolérer, n'est-ce pas, accepter cette idée, cette réalité d'un sacrifice expiatoire. Et cela découle de ces principes. La notion de la justification de Luther implique la suppression de la notion de sainteté. Non seulement de facto, il n'y a pas de saint dans le protestantisme, mais il ne peut y en avoir, puisque selon ces principes, la nature humaine est inguérissable et l'homme ne peut donc pas être transformé et sanctifié. C'est une autre chose importante. Deuxièmement, sola fides. Si l'homme est incapable de tout effort moral, la seule prétention de la collaboration humaine au mystère du salut n'est que présomption. Et cette parole du réformateur, le juste pêche en chaque bonne œuvre, en est la suite logique et compréhensible. Ce n'est pas par le jeûne, la mortification, la prière, les larmes, les aumônes, le dépouillement intérieur, le pèlerinage ou la vie religieuse que l'on contribue à la justification, mais seulement par la foi. Celle-ci, encore comprise non pas comme une acceptation obéissante de la révélation de Dieu, mais comme une confiance personnelle en les mérites du Christ. Une pure confiance, la foi, pas, n'est-ce pas, la soumission obéissante. La soumission obéissante, n'est-ce pas, à la révélation. Troisièmement, solus Deus, Dieu donne le salut à l'homme par cette foi de confiance personnelle en les mérites du Christ et sa médiation exclusive. L'Église, son sacerdoce, sa hiérarchie n'est pas avec le Christ et en dépendance de lui médiatrice du salut, mais seulement communauté des fidèles, peuple de Dieu. L'Église n'est pas médiatrice. Par conséquent, l'intercession des saints, particulièrement le rôle de médiation de la très sainte Vierge, est supprimé pour les protestants. Puisque le protestantisme rejette les principes de la analogia intis, une médiation en dépendance de la médiation du Christ est impensable. Si l'homme est incapable de collaborer avec la grâce de Dieu à son propre salut, comment serait-il alors capable de collaborer au salut du prochain? La très sainte Vierge Marie, devenant un instrument sans volonté dans la génération de l'homme-Dieu, lui attribuer un rôle dans l'économie du salut serait par conséquent erroné. Toute sainteté, en tant qu'elle est reflet de la sainteté de Dieu, est étrangère au protestantisme. Quatrième principe des soli, sola scriptura. Puisque Dieu donne le salut directement sans se servir de causes secondes, on a ici, n'est-ce pas, déjà une préparation du pentecôtisme. Pour parler de manière concrète d'une église ou d'une hiérarchie, la seule source de la révélation de Dieu ne peut être que l'Écriture sainte. Le Christ a non seulement pas institué un magistère de facto, mais un tel n'est pas possible à partir même des principes protestants. C'est pourquoi désigner le pape comme l'antichrist n'est pas tellement l'effet de la colère de Luther, mais de la doctrine du protestantisme. Le cardinal Ratzinger lui-même a cité dans son livre « Écuménisme et politique » un mot de Luther, écrit à l'occasion du Concile des Trente, qui met bien en évidence le rejet de l'Église et de son magistère. Citation. Il faut arrêter comme des blasphémateurs le pape, les cardinaux et toute la canaille qui l'idolâtre et le sanctifie, leur arracher la langue jusqu'au fond de la gorge et clouer ces langues l'une après l'autre au gibet. qu'on les laisse ensuite organiser un concile ou ce qu'ils veulent au JP ou en affaire parmi les diables. Citation fermée. Qu'est-ce qui garantit alors l'authenticité de la Sainte Écriture qui l'interprète? Le Saint-Esprit lui-même qui illumine chaque fidèle directement. Voilà le principe protestant. Donc, il faut dire, si il y a une influence protestante sur le concile, sans doute, elle s'orienterait d'une façon cohérente avec ces principes. Alors, quelles sont les conséquences qui découlent de ces quatre soli pour la structure de l'Église, pour la foi et même pour les actions philosophiques et finalement pour les cultes? Tout d'abord, pour la structure de l'Église. Eh bien, le magistère doit être transformé en un service de charité. Deuxièmement, la hiérarchie doit faire place à la démocratisation de l'Église. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Troisièmement, le sacerdoce ministériel est noyé dans le sacerdoce général des laïcs, le sacerdoce commun des laïcs. Alors, ceci pour la structure de l'Église, n'est-ce pas? Encore une fois, des conséquences qui découlent, n'est-ce pas, de la doctrine protestante. C'est logique. Alors, pour la foi et le contenu de la foi, et aussi pour quelques axiomes philosophiques. Premièrement, l'Église et les saints, spécialement la très sainte Vierge Marie, doivent céder à une christocentrie. Donc, on parle beaucoup du christocentrique, n'est-ce pas, du principe christocentrique. Eh bien, c'est ça, justement, tout à fait dans l'idée du protestantisme. Deuxièmement, la prétention de l'Église d'être la seule vraie doit être remplacée par la pluralité des confessions et des formes de foi. En effet, vous savez bien que le protestantisme, historiquement, est réalisé dans 1000 formes différentes, n'est-ce pas? Et aucune d'elles peut prétendre, n'est-ce pas, d'être la vraie. Troisièmement, le magistère doit être remplacé par le travail des théologiens, spécialement par celui des exégètes libéraux avec la Formengeschichte. Quatrièmement, il ne peut y avoir une tradition qui ne serait pas explicitement fondée sur la Sainte Écriture. Cinquièmement, la foi ou la loi de la foi doit être remplacée par le libre examen ou par la conscience individuelle. Il est primordial d'abandonner toute idée d'État catholique, puisqu'il met obstacle à la libre, au libre examen, n'est-ce pas? Toute cette idée, n'est-ce pas, d'un État catholique est évidemment insupportable pour un protestant. C'est pourquoi la liberté religieuse est exigée. C'est dans la ligne, n'est-ce pas, du libre examen, de la liberté religieuse. Sixièmement, l'ordre objectif cède au subjectivisme et à l'individualisme. Le bonum commune à la réalisation primordiale et même exclusive de la personne, voire du personnalisme. Septièmement, l'Église doit abandonner tout pouvoir et domination temporelle, particulièrement l'État catholique, maintenant comme un fait, l'État catholique comme un fait, puisqu'il empêche l'expansion du protestantisme. Alors, si vous voulez, n'est-ce pas, on va exiger, n'est-ce pas, sous deux titres, n'est-ce pas, la liberté religieuse. Sous le titre, n'est-ce pas, parce que l'État catholique empêche la propagation du protestantisme, comme un fait, et ensuite comme principe, parce que c'est contraire au libre examen. Autre point, l'union entre la nature et la grâce ne pouvant pas être maintenue, on s'oriente ou vers le fidéisme de Karl Barth, ou le naturalisme et rationalisme de Bultmann, avec la laïcisation de la société. Autre point. Il faut se détourner de la romanité qui s'exprime par la langue latine et la papauté. Ensuite, les cultes. Protestantisme sur le niveau du culte. Il faut retourner aux formes plus simples du culte et abandonner le triomphalisme. Deuxièmement, il faut souligner la parole et l'Eucharistie comme repas et diminuer ce qui exprime l'idée du sacrifice. Ensuite, la liturgie n'est pas culte, mais avant tout enseignement. De plus, elle est réalisée par la communauté. Alors donc, comprenez, d'abord les principes protestants, ensuite les conséquences qui en découlent sur le niveau de la structure de l'Église, de la foi, de l'ordre de la société, d'une société chrétienne, et ensuite les conséquences pour les cultes. Alors maintenant, reste la question, est-ce qu'il y aurait eu des observations au Concile? Des observateurs, n'est-ce pas, protestantes, est-ce qu'il y aurait une influence protestante au Concile? Et s'il y avait, est-ce qu'on peut vérifier, en effet, ces principes protestants dans les textes et dans les discussions? Eh bien, du fait, il y a eu, bien sûr, n'est-ce pas, des représentants protestants au Concile. Et ceci, je dirais, de deux façons. Tout d'abord, il y a eu des observateurs invités par le secrétariat pour l'unité des chrétiens. Nous verrons tout de suite qui étaient ces observateurs. Ensuite, il y a eu une présence protestante indirecte par des pères et des théologiens libéraux du Concile, qui ont été gagnés pendant les années passées aux idées protestantes et se sont présentés au Concile davantage en accusateur de leur Église qu'un un représentant du protestantisme, qu'un défenseur de leur propre Église, de sa doctrine, de son culte, de son honneur. Alors, deuxième grand point, donc, les observateurs protestants et le rôle du cardinal Béa et de son secrétariat pour l'unité des chrétiens. Le 13 septembre 1868, le pape Pie XI invita, le pape Pie IX, excusez, invita tous les protestants et autres non-catholiques à profiter de l'occasion du concile œcuménique pour faire retour à l'Église catholique. Donc, une intention missionnaire apostolique. Il les invite à s'efforcer de se libérer eux-mêmes de cette condition dans laquelle ils ne pouvaient être assurés de leur salut. Cette lettre fut jugée offensante et n'eut qu'un résultat minime. Alors, lorsque le pape Jean XXIII informa le monde de son intention de convoquer un concile œcuménique, il parla aussitôt d'une invitation renouvelée faite aux fidèles des églises séparées, afin qu'ils se joignent amicalement à nous dans cette quête d'unité et de grâce à quoi aspirent tant d'âmes de par le monde. Et parmi les nombreuses commissions et secrétariats qu'il institua le 5 juin 1960, pour prendre en main la tâche immédiate de la préparation du concile, figurait un secrétariat pour l'union des chrétiens. Son but était d'établir des contacts avec les orthodoxes, les vieux catholiques, les anglicans et les protestants des différentes dénominations, de les inviter à envoyer des représentants officiels au concile. Or, entre le premier concile Vatican II et le deuxième, le climat religieux dans le monde avait bien changé. Le mouvement œcuménique, qui trouve ses origines dans le protestantisme divisé, sans espoir, avait aussi saisi les esprits catholiques et pénétré l'intérieur de l'Église. Le pape Pie XI avertissait avec instance dans son encyclique Mortalium Animos contre ces pan-chrétiens et ces pan-christianismes qui conduit, dit-il, à l'indifférence religieuse et finalement à l'abandon de toute la foi, donc à l'apostasie et à l'athéisme. Ce sont les termes, n'est-ce pas, du pape lui-même dans son encyclique. Il rejette dans cette encyclique particulièrement cette idée audacieuse que le pape lui-même devrait se mettre à la tête d'un tel mouvement œcuménique. Mais le mouvement œcuménique, favorisé par la recherche biblique qui avait rapproché des érudits catholiques, protestants, anglicans et orthodoxes, développait un certain dynamisme propre, particulièrement en Allemagne, en France, en Hollande, et là, de nouveau, tout particulièrement parmi les membres de l'ordre des Jésuites et des Dominicains. Par conséquent, dans l'instruction sur le mouvement œcuménique du 20 décembre 1949, publiée par le Saint-Office, on voyait moins les soucis et les avertissements du Saint-Siège à cause des dangers que les fidèles encouraient si facilement par les activités de ce mouvement, on voyait plutôt un encouragement et même un élan supplémentaire. Alors le pape Jean XXIII nommait un jésuite et exégète allemand, le cardinal Augustin Bia, préfet de ce secrétariat pour l'unité des chrétiens. Et il nomme comme secrétaire Mgr Jan Willy Brandt, hollandais, lui qui était professeur de philosophie à Roermond, en Hollande, et qui déjà en 1951 avait créé une conférence catholique pour des questions œcuméniques. Le secrétariat, par la suite, fit appel à beaucoup d'adhérents de cette conférence pour les recruter comme membres et conseillers du secrétariat pour l'Union des chrétiens. Après cet établissement de ce secrétariat, on voit alors des événements œcuméniques jusqu'alors inhabituels. Le 2 décembre, l'archevêque anglican de Canterbury, alors le docteur Geoffrey Fisher, arriva à Rome pour une visite de politesse chez le pape Jean XXIII. Le secrétariat fut chargé des travaux de préparation de cette visite et les commentaires subséquents élaborés par le cardinal Bia, qui en a fait un exposé explicite dans la Civiltà Cattolica du 10 décembre 1960. À partir de l'octave de prière pour l'unité de 1961, le rythme des interviews et des conférences publiques du président de ce secrétariat du canal Bia, n'est-ce pas, s'identifie. Le 21 janvier, à Rome, il fait une conférence à l'Angelicum sur le thème « Les catholiques devant le problème œcuménique », où, pour la première fois, il attaque la question de l'appartenance des chrétiens non catholiques à l'Église. Une semaine plus tard, le 21 janvier, à Gênes, il parle de l'attitude des chrétiens de la Réforme par rapport au Concile et expose ses idées sur la façon dont le Concile pourrait contribuer à l'unité. À partir de ce moment, il va parcourir toute l'Europe libre pour donner des conférences pour des milliers d'auditeurs, ou diriger des colloques, ou pour participer à des congrès qui s'occupent tous de la question œcuménique et de l'union des chrétiens avec des thèmes variables. Mais la substance est évidemment toujours la même. Par exemple, le catholique devant le problème œcuménique. concile et unité, la recherche et l'enseignement académique au service de l'unité des chrétiens, le prêtre comme serviteur de l'unité, le concile Vatican II et les chrétiens non catholiques, etc. Il parle à Milano, Lugano, Turin, Chieri, Rome, Naples, Reggio di Calabria, en Sardaigne, à Venise, Strasbourg, Berne, Bâle, Zurich, Fribourg, Paris, Heidelberg, Tübingen, Munich, Vienne, Innsbruck, Essen, à Berlin-Est et Berlin-Ouest, au Katholikentag de Hanover, en Angleterre et au Danemark, et le 13 mai 1974, il parle devant 750 000 pèlerins à Fatima. Il rencontre le professeur juif Jules Isaac, qui demande que le concile se déclare contre l'antisémitisme et en faveur d'une collaboration judéo-chrétienne. Il rencontre plusieurs fois le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, le docteur Wilhelm Wiesertoff, pour la première fois en septembre 1961 à Milan. L'un des thèmes les plus importants de ce premier entretien a été la question de la liberté religieuse. À l'occasion de son séjour en Angleterre en 1962, il rend visite au docteur Michael Ramsay, archevêque de Canterbury et primat de l'Église anglicane d'Angleterre. Ramsay lui-même parle de cette visite comme d'un moment historique. Depuis 400 ans, aucun cardinal romain n'avait mis le pied dans le Lambeth Palace. Anticipons un peu. En septembre 1966, se produit à Francfort, en Allemagne, un événement de grande importance, à savoir l'attribution du prix de la paix des libraires allemandes à deux figures de proue de l'œcuménisme, le cardinal Bea et le docteur Wilhelm Wiesertoff, secrétaire du Conseil œcuménique des Églises à Genève. Le soir de cette même journée, se tient sous la direction des deux lauréats un service de la parole à l'église luthérienne Saint-Pierre, retransmise par la télévision allemande. Citation du docteur Wiesertoff. Jamais je n'aurais osé rêver donner un jour avec le cardinal Bea la bénédiction à une communauté. Donc déjà à cette époque, n'est-ce pas, le cardinal Bea donne avec un pasteur protestant ensemble la bénédiction. Peu auparavant, le 12 au 15 septembre, le cardinal Bea avait participé à la rencontre des jeunes à Thésée. On rencontre partout, n'est-ce pas, les mêmes figures et les mêmes points de référence. Alors, il entreprend 4 voyages aux États-Unis. Il participe au colloque catholique protestant de la Harvard University. En 1963, il assiste à une grande ACAP des représentants éminents des différentes confessions et religions. Parmi eux, le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Assemblée plénière de l'ONU à New York. Il reçoit des prix des différentes universités américaines. Et lors de son dernier voyage en Amérique en avril 1965, il reçoit à Philadelphie le prix international de la fraternité, attribué, n'est-ce pas, à lui par le Knightbridge. Sa soi-disant omniprésence, il la soutient encore par plus de 260 publications après son élévation à la dignité cardinalis. C'était un homme qui a déployé une énergie extraordinaire. Alors donc, il a bien préparé les esprits sur une échelle mondiale, n'est-ce pas, pour vraiment recevoir le concile. Encore plus fondamentalement fut son influence au concile même. soutenu et promu par les deux papes du Concile. Le cardinal Pella était personnellement un homme pieux. Ses notes de retraite le prouvent. Alors, si vous lisez ses notes de ses retraites et de ses recollections mensuelles, qu'il fait avec une régularité extraordinaire, n'est-ce pas, et qui se trouve dans un livre qui a été publié après sa mort par son secrétaire, c'est bouleversante, absolument bouleversante. Il veut faire de la Sainte Messe le centre de sa vie. Le vivre tel, il transmet son élection, son élection à son Sauveur à travers de la très sainte Vierge. Et en même temps, il est d'esprit complètement libéral. Son action le prouve. C'est l'un des principaux attaquants des positions catholiques au Concile. Par exemple, n'est-ce pas, quand il s'agit du décret sur la très sainte Vierge, n'est-ce pas, il attaque farouchement. Il dit que ce n'est pas un livre de piété. En lui-même, n'est-ce pas, dans sa vie priée, n'est-ce pas, il semble, n'est-ce pas, qu'il a cru, n'est-ce pas, à cette médiation de la très sainte Vierge. On a au moins l'impression, on pourrait conclure, n'est-ce pas, de ses notes de retraite. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, d'appliquer ça, n'est-ce pas, au Concile, bien, il attaque. Il est un des adversaires les plus farouches. Alors, il était du ressort du secrétariat de préparer et de lancer au nom du pape les invitations au Concile, aux églises non catholiques, aux communautés ecclésiales, aux observateurs et délégués. Des milliers d'églises séparées existant de par le monde, il était impossible d'inviter chacune d'entre elles à se faire représenter au Concile. Le cardinal Pella a résolu à entrer en contact avec les communautés les plus nombreuses et à les inviter à envoyer des délégations qui puissent représenter toutes les églises qui leur étaient affiliées. Alors, il invita l'archevêque de Canterbury à envoyer une délégation représentant l'église anglicane. L'invitation fut acceptée. À part les délégations des églises schismatiques de l'Est, se trouvaient à la première session du Concile des représentants suivants du protestantisme. Des communautés anglicanes, 3 représentants. De la Fédération luthérienne mondiale, 2 représentants. De l'Alliance mondiale des églises réformées et presbytériennes, 3 représentants. De l'Église évangélique d'Allemagne, 1 représentant. De la Convention mondiale des églises du Christ, 1 représentant. De la Communauté mondiale des amis, 1 représentant. Du Conseil mondial des congrégationnistes, 2 représentants. Du Conseil mondial des méthodistes, 3 représentants. Du Conseil œcuménique des églises à Genève, 1 représentant. De l'Association internationale pour le christianisme libéral et la liberté religieuse, 2 représentants. À part, ceux-ci assistaient comme autres invités du secrétariat pour l'unité, Roger Jutz, prière de la communauté protestante de Thésée, et son confrère Max Turien. Ensuite, le professeur Kuhlmann de l'Université de Bâle de Paris, le professeur Berghauer de l'Université protestante d'Amsterdam. Alors, dans l'ensemble, on compte 23 représentants protestants au début du Concile. La lettre d'invitation définit ainsi leur statut et leur rôle. Petit a. Les observateurs assureront aux églises séparées de Rome des informations sûres au sujet du Concile. Petit b. Ils pourront assister aux séances publiques solennelles et aux assemblées générales fermées où seront discutés les décrets du Concile. Il n'assistera pas aux séances de commission, sauf dans certains cas particuliers et avec une autorisation spéciale. Mais remarquez, n'est-ce pas, qu'ils ont l'accès donc à toutes les séances plénières. Ils n'auront ni droit de parole, ni droit de vote. Dité, le secrétariat pour l'unité des chrétiens servira d'intermédiaire entre les organismes du concile et les observateurs pour fournir à ceux-ci les renseignements nécessaires en vue de suivre facilement et plus efficacement les travaux du concile, et il organisera pour eux des entretiens avec des personnes qualifiées qui pourront être des pères conciliaires sur les thèmes discutés au concile. Alors cela, c'était donc la présence du protestantisme au concile, présence directe. Mais il y a cette autre présence de laquelle nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, de théologiens, du père du concile, gagnés aux idées protestantes. Parmi eux, spécialement, les cardinaux Béat, König, Frings, Töpfner, Lienard, Alfrings, Sünens, les experts Karl Rahner, Hans Küng, Eduard Schillebeck, Yves Congar, pour ne nommer que ceux-là. Si vous prenez par exemple le père Congar, bien, il suffit de lire quelques passages, quelques écrits de lui, pour se rendre compte qu'il était vraiment gagné au protestantisme. Il écrit ceci. Au Solchoir, on s'intéressait à Luther et d'une toute autre façon que Tenifle ou Grissard. Au cours d'un séjour en Allemagne, je visitais les grands lieux luthériens qui m'attiraient. Une autre fois, il dit, « Luther est l'un des plus grands génies religieux de toute l'histoire. Je le mets à cet égard sur le même plan que saint Augustin, saint Thomas d'Aquin ou Pascal. D'une certaine manière, il est encore plus grand. Il a repensé tout le christianisme. Luther fut un homme d'Église. Et pourquoi il en fut ainsi ? Parce qu'il était incapable de recevoir quelque chose qui ne vienne pas de sa propre expérience. » Voilà vraiment le modernisme, n'est-ce pas, dans toute sa forme. Alors, il dit, n'est-ce pas, il y a une expérience chez les luthériens que nous, dans l'Église catholique, nous avons perdue. Et donc, il est tout à fait à propos de réintégrer ces valeurs ou ces expériences dans l'Église catholique. Alors donc, il va élaborer une nouvelle ecclésiologie qui contient particulièrement les points suivants. Élargissement des limites de l'Église. Selon lui, des communautés non catholiques peuvent être des moyens de salut et donc, d'une certaine façon, appartenir même imparfaitement à l'Église. Ensuite, restriction du pouvoir du pape. Alors, citation de lui, « La papauté telle qu'elle est aujourd'hui est une création de l'histoire. » Et alors, diminution au profit d'une collégialité épiscopale. Accepter des orthodoxes et sans doute mieux admise des protestantes. Le pape ne serait plus considéré comme le vicaire direct de Jésus-Christ, mais comme la tête du corps épiscopal. Ensuite, relativisation de l'Église comme moyen de salut. Alors, citation, « Aujourd'hui, personne ne peut plus prétendre pour justifier la mission chrétienne qu'il faut sauver les âmes de l'enfer, que le sauve sans qu'elles connaissent l'Évangile. Sinon, nous devrions tous partir pour la Chine. » Mais nous citons ici, n'est-ce pas, le père Congar. Eh bien, il faut aussi dire un mot, n'est-ce pas, au sujet du cardinal Ratzinger, qui, dans les principes, ne pense pas beaucoup autrement. Voilà une citation de un de ses livres, à savoir « Problème œcuménique ». Permettez-moi de donner un exemple, dit-il, de manière empirique et très pragmatique. Ne doit-on pas considérer à maintes égards comme un bien pour l'Église catholique en Allemagne et ailleurs le fait qu'ait existé à ses côtés le protestantisme? avec sa libéralité et sa piété, avec ses déchirements et sa grande exigence spirituelle. Certes, au temps des luttes de foi, la division était presque uniquement une opposition mutuelle. Mais par la suite, sont également apparus des deux côtés des éléments positifs pour la foi, ce qui nous permet de comprendre en partie le mystère « il faut » de Saint Paul, la parole de Saint Paul aux portes d'Éphèse. C'est tout à fait l'esprit dialectique, n'est-ce pas, du cardinal Ratzinger. Le catholicisme ne suffit pas à lui-même. Le protestantisme, à ses côtés, est un bien, n'est-ce pas, pour favoriser le processus, n'est-ce pas, le développement. C'est clair. Alors, le déroulement du concile. Troisième grande partie, donc. 11 jours après l'ouverture du concile, il fut annoncé que le pape Jean XXIII avait élevé le secrétariat pour l'union des chrétiens au rang de commission. Alors, ceci était une manœuvre très habile. Parce que, comme ça, on pouvait maintenir, n'est-ce pas, tous les membres que le cardinal Beer avait choisis autour de lui, sans qu'il y ait un vote. Et ensuite, ce secrétariat élevé, n'est-ce pas, au rang, n'est-ce pas, d'une commission, était, alors, avait la possibilité de présenter des schémas. Alors, ici, une petite citation de Wilken. Pendant les congrégations générales, les observateurs prenaient place dans la tribune de San Longino, qui leur était entièrement réservé. Des théologiens interprètes des différentes langues, anglais, français, allemand, grec, russe, arabe, arménien, langue d'Éthiopie, étaient à leur disposition pour traduire les interventions et pour les aider, tandis que les membres officiels du secrétariat pour l'Union étaient à leur disposition pour la distribution des textes et pour tout demande de renseignements complémentaires. Tous les mardis, les observateurs se réunissaient avec les membres du secrétariat pour débattre les thèmes conciliaires traités pendant la semaine. À ces réunions participaient de nombreux pères conciliaires qui s'intéressaient plus spécialement aux problèmes œcuméniques. Des théologiens et des experts exposaient les thèmes et répondaient aux questions. Alors, il y a eu pendant tous les conciles, d'autres observateurs qui sont encore arrivés à Rome, des observateurs pour quelques jours ou pour un événement. Ainsi, par exemple, il y a eu le patriarche, le métropolite de Leningrad, Nicodime, était venu spécialement de Russie pour la clôture solennelle du concile. Alors, avant qu'il y ait un mois écoulé du concile, le cardinal Beer exprima publiquement sa satisfaction devant les réactions des observateurs délégués. C'était, dit-il, un vrai miracle que tant d'églises chrétiennes non catholiques eussent demandé à leurs membres de prier pour le concile. Et cela contrastait de façon saisissante avec l'atmosphère qui avait régné lors du premier concile du Vatican. Le professeur Kuhlmann, dans une longue conférence de presse à la fin de la 6e semaine de la première session, afin d'exposer ses réactions et celles des autres invités et observateurs. Il dit qu'ils avaient reçu tous les textes du concile, qu'il leur était loisible d'assister à toutes les congrégations générales, qu'ils pouvaient faire connaître leur point de vue à des réunions hebdomadaires spéciales du secrétariat, qu'ils étaient en contact personnel avec les pères conciliaires, les experts et d'autres personnalités romaines. Les activités du secrétariat pour l'union des chrétiens, dit-il, leur montraient quotidiennement combien il était vrai que son existence contribuait au rapprochement de tous. Parmi les résultats œcuméniques du concile, le professeur Kuhlmann mentionna en tout premier lieu l'existence du secrétariat pour l'union des chrétiens. S'il continue, dit-il, d'être aussi respectueux des autres églises et œuvre dans le sincère esprit œcuménique qui caractérise actuellement ses actions et son comportement, on peut à juste titre considérer son existence comme d'une extrême importance pour l'avenir de l'œcuménisme. Autre réussite, la présence d'observateurs est invitée dans l'aula conciliaire. Chaque matin, déclare-t-il, je suis de plus en plus étonné de voir à quel point nous faisons véritablement partie du concile. Alors, pour se préparer aux congrégations générales, les observateurs étudiaient les schémas qui leur avaient été distribués. Nous les annotons, dit-il, nous les comparons avec l'Écriture, avec les écrits des pères de l'Église et avec les décisions des présidents de concile. Évidemment, nous avons réagi de manière très diverse aux schémas qui nous ont été communiqués. Nous en apprécions certains, d'autres nous déplaisent. Certains nous paraissent encourageants, d'autres décevants. Non seulement, dit le professeur Kuhlmann, elle nous permet. Ah oui, il y a un lieu, n'est-ce pas, de rencontre tout à fait particulière, n'est-ce pas, à Saint-Pierre, à savoir la buvette qui était y installée, n'est-ce pas, et où on se rencontrait. Non seulement, dit-il, elle nous permet de nous rafraîchir, mais aussi elle nous permet de rencontrer des évêques du monde entier d'une façon qui autrement serait impossible. Et si le dialogue est poursuivi par les deux parties dans l'esprit qui nous a jusqu'à ici animés, ce sera là un élément d'unité qui pourra porter de nouveaux fruits. L'expérience réussit si bien pendant la première session qu'elle se renouvela tout au long du concile. Lorsque Paul VI, au début de la deuxième session, reçut en audience les observateurs et les invités, le cardinal Pea put annoncer que leur nombre était passé des 49 à 66. Alors, ceci inclut les orthodoxes, n'est-ce pas ? Pourquoi la différence avec le chiffre que j'ai donné tout à l'heure ? Et celui des églises ou communautés représentées de 17 à 22. Le pape, en réponse, n'est-ce pas, d'une intervention de l'observateur de la Fédération luthérienne mondiale, exprima son désir de recevoir les observateurs et inviter non seulement sur les seuils de sa maison, mais dans le cœur même de son intimité. Alors, le cardinal Béa invite les observateurs, n'est-ce pas, de faire toutes les remarques qui leur semblent opportunes. Il dit, nous avons besoin, n'est-ce pas, nous les catholiques, n'est-ce pas, de vous entendre, d'entendre vos critiques. Le chef de la délégation anglicane, l'évêque de Ripon, John Moorman, eut l'obligeance d'exposer au père Wilken son point de vue personnel sur la primauté et la collégialité. Alors ça, c'est très intéressant. Depuis 400 ans, l'Église anglicane vit séparée de Rome. Et pendant ce temps, les prétentions du pape ont augmenté, notamment avec la proclamation de l'infaillibilité de 1870. Toutefois, ajoute-t-il, si l'union ne devrait jamais se faire entre les chrétiens, l'Église devrait avoir en son centre un chef, qui ne pourrait certainement être que l'évêque de Rome. Il estimait que l'ensemble de la communauté anglicane serait prêt à accepter le fait de la pauvreté, mais aurait de grandes difficultés à reconnaître la base sur laquelle repose la primauté. Car du point de vue historique, comme du point de vue exégétique, on avait été beaucoup trop loin dans l'interprétation des paroles de notre Seigneur à Saint-Pierre. L'Église catholique romaine gagnerait beaucoup de force, ajoute-t-il, si les principes de la collégialité des évêques étaient acceptés et si l'on trouvait un système permettant à des évêques représentant le monde entier de constituer avec le pape un concile permanent. Ce serait là, pensait-il, une amélioration par rapport au système actuellement en vigueur d'une curie à très forte majorité italienne. Donc, internationalisation, n'est-ce pas, et démocratisation. Gérard Defoy, secrétaire de l'épiscopat français, pouvait écrire plus tard, « Pour la première fois, sans doute, dans un concile, les observateurs officiels, dont l'action ne pouvait être que consultative, jouèrent un rôle de témoin et empêchèrent l'Assemblée de se fermer sur son propre discours. » La qualité œcuménique des amendements, par exemple, fut un critère souvent. La qualité œcuménique des amendements, par exemple, fut un critère souvent décisif. Alors le temps marche terriblement. Il y aura maintenant 5 schémas. C'est pas, tout d'abord, le schéma sur la liturgie. Le premier schéma proposé, n'est-ce pas, fut ce schéma sur la liturgie. Alors, les protestants eux-mêmes, écrit Fresquet, le premier jour de la discussion, ont été frappés par la qualité de ce document, par son caractère christocentrique et par ses nombreuses références scripturales. La portée œcuménique de la réforme liturgique est évidente. Dès le début, n'est-ce pas? C'est clair. Le pasteur Riet employait presque les mêmes mots pour le lecteur de la tribune de Genève. Citation, « Le schéma sur la liturgie dans l'ensemble nous paraît bon, m'ont dit les observateurs non catholiques que j'ai pu joindre, très supérieur aux 6 autres qui nous ont été communiqués. L'adoption dans la liturgie de la langue populaire est conforme à nos propres principes. Beaucoup de prélats souhaitent la simplification des rites, et parmi eux, ceux qu'on pourrait appeler les œcuménistes du cardinal Béa. » Plus tard, on verra, n'est-ce pas, que le mouvement liturgique, le mouvement œcuménique, le mouvement, n'est-ce pas, pour laïcisme dans l'Église, a les mêmes défenseurs. Ce sont les mêmes hommes, n'est-ce pas, qui vont promouvoir, n'est-ce pas, ces principes, ces 3 mouvements. Alors déjà, au début, n'est-ce pas, du concile, un évêque a émis la pensée d'une messe œcuménique. En effet, le 5 novembre, Mgr Tuchac, d'origine allemande, évêque titulaire d'Abida et vicaire apostolique de Calapan aux Philippines, donnait une conférence de presse. « Mon idée, dit-il, serait d'introduire une messe œcuménique, dépouillée dans toute la mesure du possible des superstructures historiques, basée sur l'essence même du Saint-Sacrifice et fermement enracinée dans la Sainte Écriture. J'entends par là qu'elle devrait contenir tous les éléments essentiels de la dernière scène, utilisant une langue et des gestes qui soient compréhensibles, adoptant la méthode et l'esprit des prières et des mots qui furent alors prononcés. Ce devrait être une sorte de célébration de la messe que tous les membres de la communauté, même s'ils assistent pour la première fois de leur vie, puissent comprendre aussitôt, sans qu'il soit besoin d'explications compliquées et de commentaires historiques particuliers. » Alors, cette messe devrait être mise puisé sur les paroles de la promesse de la Sainte Écriture, sur les paroles prononcées par le Christ à la dernière scène, lorsqu'il institua l'Eucharistie et dit sa prière sacerdotale pour l'unité, ainsi que sur les admonitions de Saint Paul concernant l'Eucharistie, telles qu'elles se trouvent dans la première épître aux Corinthiens. Alors, il pense déjà aussi d'abolir les canons. Si les hommes des siècles passés, dit-il, ont pu choisir et inventer les rites de la messe, pourquoi le plus grand de tous les conciles œcuméniques ne pourrait-il pas en faire autant? Pourquoi ne serait-il pas possible de décréter qu'une nouvelle formule de la messe sera élaborée en toute révérence, formule qui répondrait au désir et serait adaptée à la mentalité de l'homme moderne, qui vit dans un monde de jour en jour plus petit et plus uniforme, et serait compris par lui? La substance du Saint-Sacrifice, poursuit-il, devrait demeurer inchangée, mais les rites, les formes, la langue et les gestes seraient accommodés au goût du jour, ce qui permettrait à l'homme moderne d'en tirer un plus grand bénéfice spirituel. De plus, toute la messe devrait être célébrée à haute voix, en langue vernaculaire et face au peuple. Je crois que si l'on offre au monde une telle forme œcuménique de célébration eucharistique, la foi des communautés chrétiennes non catholiques en la présence sacramentelle du Christ pourrait être renouvelée ou même rectifiée. Donc on veut être missionnaire, n'est-ce pas, auprès de ces communautés, n'est-ce pas, hérétiques. Le cardinal Montini disait que le schéma ne constituait en aucune façon une rupture avec les cultes divins et catholiques qui étaient un héritage du passé. Bien au contraire, il recommanda que des commissions fussent créées après les conciles. Alors, le cardinal Montini émet cette idée, n'est-ce pas? Il faut créer une commission et laisser les choses assez vagues. Et cette commission, après, n'est-ce pas, va appliquer le principe énoncé dans les conciles. Eh bien, une fois élevé, n'est-ce pas, à la papauté, il a lui-même réalisé cela. Et c'était la commission pour la commission liturgique, n'est-ce pas, qui a élaboré la soi-disant nouvelle liturgie. Alors, la pression morale des observateurs non catholiques au concile fut mise en évidence par l'événement suivant, juste un seul événement. Parlant d'une proposition d'un évêque d'Amérique du Sud à propos de la confirmation, Don Bott raconte. Je répondis que si je devrais faire cette proposition au concilium, je serais obligé de donner la raison indiquée en présence des observateurs protestants qui assistaient aux séances et que cela ferait une pénible impression. Donc vous voyez, n'est-ce pas, clairement, n'est-ce pas, l'influence des protestants au concile, de différentes manières. Tout d'abord, n'est-ce pas, leur simple présence, n'est-ce pas, les discussions avec les pères conciliaires. Ensuite, les autres théologiens et pères du concile gagnés, n'est-ce pas, déjà par le protestantisme. Et ensuite, n'est-ce pas, ça enlevait, n'est-ce pas, la liberté de discuter aux autres. Ça, c'était très nuisible. Très, très nuisible pour l'atmosphère. Et ensuite, ils ont, même pour l'élaboration de la nouvelle liturgie, ensuite, et pour réformer les bréviaires, n'est-ce pas, ils ont contribué, et d'une grande partie. Par exemple, n'est-ce pas, pour la restauration de l'office, nous dit le relateur de la commission ad hoc, les experts avaient étudié non seulement l'histoire des heures dans les différents rites orientaux, mais aussi l'évolution ou la renaissance des formes équivalentes de prière dans les églises issues de la réforme. Donc on prend même, n'est-ce pas, pour les prévières, n'est-ce pas, maintenant, n'est-ce pas, là, disons comme modèle, n'est-ce pas, les différentes prières protestantes. Alors, quelques témoignages, n'est-ce pas, encore, qui mettent bien en évidence, n'est-ce pas, cette union entre l'œcuménisme et la réforme liturgique. On ne rend pas justice, dit en effet Don Bott, au mouvement liturgique en le jugeant exclusivement sur les détails de la réforme liturgique. Il a été dès l'origine un mouvement d'idées inspiré par une certaine vision du mystère de l'Église. Et il a exercé une grande influence sur la théologie, même en dehors du catholicisme. Ce n'est pas par hasard que son fondateur, Don Baudouin, est devenu un des plus ardents artisans du mouvement œcuménique. En effet, il est frappant de constater combien des pionniers du mouvement liturgique l'ont été en même temps de l'œcuménisme catholique et de l'ecclésiologie. Par les biais de Don Lambert Baudouin, comme par celui de Thésée, pour ne donner que ces deux exemples, le renouveau œcuménique a fleuri un renouveau liturgique. Et le cardinal Lecaro, président du conseil post-conciliaire pour la liturgie, a dit à Beyrouth, à l'université Saint-Joseph, dans une conférence sur l'œcuménisme et la liturgie, c'est toute une manière de comprendre l'Église qui a inspiré la Constitution sur la liturgie. Et il note, n'est-ce pas, que l'ecclésiologie s'exprime dans le schéma sur la liturgie. Alors, après la promulgation de la Constitution, le 4 décembre 1963, les commentateurs sont unanimes à évoquer et à louer ce souffle œcuménique qui la traverse, n'est-ce pas, qui marque, n'est-ce pas, ce décret sur la liturgie. Un souci missionnaire et œcuménique, note Mertens à propos du paragraphe 36, semble donc présider nettement à la rédaction de ce paragraphe. Cette primauté donnée à la parole est une des caractéristiques les plus remarquables de toute la Constitution et une de celles qui ont la plus grande portée œcuménique. Et Hans King va dire, les décisions les plus notables concernent la réforme liturgique elle-même. Elles ont une grande signification œcuménique. Et le pasteur Riet, l'attention des protestants devant cet important document se concentra surtout sur les principes cultuels définis. Le texte voté le 4 décembre 1963 rapproche certainement la messe catholique des cultes luthériens, des cultes luthériens réformés et anglicans. L'adoption de la langue vulgaire rejoint une exigence de Luther et des autres réformateurs qui l'appliquèrent dès le XVIe siècle. L'importance accrue de la Bible et de la prédication va dans le même sens. Alors, on va voir, n'est-ce pas, la concordance entre la réforme liturgique et le Common Prayer Book de Cranmer. Tout d'abord, la traduction des rites en langue vernaculaire. Premier principe. Deuxième principe. La révision des textes sur des modèles scripturaires et patristiques. Troisième principe. La fin de la prédominance du rite romain. Quatrième principe. La décléricalisation des rites et l'encouragement à la participation active des laïcs. Cinquième. La diminution de l'influence monastique et des liens plus obvis avec le monde contemporain. Dans sa modernité, la nouvelle liturgie, malgré son retard de 400 ans, a dépassé en beaucoup d'endroits la liturgie des Cranmer. Voilà le jugement, n'est-ce pas, de protestants. Elle a dépassé en beaucoup la réforme des Cranmer. Alors, maintenant, il faudrait voir, n'est-ce pas, les différents articles, un peu, n'est-ce pas, de cet document. Conciliaire. Par exemple, l'article 6 décrit la mission des apôtres pour annoncer l'évangile et pour réaliser l'œuvre du salut dans le sacrifice et les sacrements. Dans un esprit œcuménique et selon les explications du décret sur l'œcuménisme, sur la hiérarchie des vérités de foi, ici on ne nomme que le baptême et l'Eucharistie. L'article 7 parle des cinq modes de présence du Christ dans les actions eucharistiques de son Église, tout en juxtaposant ces différents modes, sans les distinguer spécifiquement. Alors, à savoir, la présence dans le prêtre, avant tout dans les espèces eucharistiques, dans la force des sacrements, dans la prière et le chant de l'Église selon sa parole, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, ça, c'est la préparation directe, n'est-ce pas, de l'article 7 de la nouvelle liturgie, de la nouvelle messe. L'article 14 exige, n'est-ce pas, la participation actuosa des fidèles. Mais l'article 59 accepte presque mot par mot la définition des sacrements donnée par Luther. Les sacrements montrent la foi. Les sacrements montrent la foi. C'est pourquoi ils s'appellent les sacrements de la foi. Et Karl Rahner remarque, n'est-ce pas, que c'est remarquable ce langage non scolastique. Remarquable. Il trouve dans son commentaire sur les conciles. L'influence protestante, n'est-ce pas, la plus évidente est peut-être ici à remarquer dans l'article 47. On y parle concernant de la Sainte Messe, plus de la représentation, comme au Concile des Trente, ni du renouvellement, comme ont fait les papes dans les derniers temps, mais de la durée et d'un mémoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps passe et... Alors, le schéma et les décrets sur la révélation, eh bien, on avait tout d'abord, n'est-ce pas, préparé un schéma qui avait les titres, n'est-ce pas, les deux sources de la révélation, ou des sources de la révélation, eh bien, c'était rejeté, n'est-ce pas, pour parler ensuite de la révélation, pour finir, n'est-ce pas, avec cette seconde source de la révélation, n'est-ce pas, la tradition orale. Ensuite, on avait préparé un schéma sur la Très Sainte Vierge, schéma séparé. Eh bien, ils ont fait tout pour que ce schéma soit intégré dans le schéma sur l'Église. Et en effet, finalement, on est arrivé à cela. Le cardinal Ottaviani, qui voulait avoir traité ce schéma à la fin de la première session, pour que les pères du Concile rentrent chez eux sous la protection de la Très Sainte Vierge, bien, on n'a pas écouté, on a délibérément différé de traiter ce schéma pour ensuite pouvoir, dans la deuxième session, vraiment le couler dans le schéma sur l'Église. Le schéma et les décrets sur l'Église. Eh bien, là, vous trouvez surtout l'article 8 avec le subsistit. Le subsistit, n'est-ce pas, très important pour les protestants, pour l'œcuménisme, et le Calran le dit, n'est-ce pas, que c'était changé en vue de l'œcuménisme. Et ensuite, l'article numéro 22 sur la collégialité, qui était ensuite corrigé un peu par la nota trevia, comme vous le savez. Ensuite, le décret sur l'œcuménisme, il y a surtout le paragraphe 3, qui est d'une grande importance, où on nous dit, n'est-ce pas, que les églises et les communautés séparées ne sont pas sans importance dans le salut, dans le mystère du salut, et qu'elles sont utilisées comme moyen de salut par l'Esprit du Christ. Alors, ceci est très, 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 très important. Et montre, n'est-ce pas, tout à fait cet esprit, n'est-ce pas, qui est un esprit faux, relativiste. Ensuite, finalement, la liberté religieuse. Eh bien, il y a une exigence, n'est-ce pas, du Conseil œcuménique des Églises à Genève à ce sujet. Au mois de juillet 1965, ils ont présenté 7 points qui devraient être respectés dans une déclaration sur la liberté religieuse. Peu de temps après, tous les 7 points exigés des protestants étaient insérés dans le schéma. Bien, conclusion. Luther a divisé par sa réforme et tous ceux qui ont mené, n'est-ce pas, le même combat, n'est-ce pas, contre l'Église, il a divisé la chrétienté. Bien, les novateurs au Concile Vatican II l'ont de nouveau réuni, pas dans la vérité, mais malheureusement, n'est-ce pas, dans cette atmosphère ambiguë, caractéristique du protestantisme, dans les relativismes, dans tous les principes protestants, il y a comme un rattrapage officiel au Concile Vatican II des principes protestants, d'une telle façon que nous vivons aujourd'hui dans le cadre officiel d'une Église protestantisée, d'une liturgie protestantisée, d'une Église démocratisée, d'une doctrine qui est affaiblie, relativisée, et donc, c'est pas dans une atmosphère de d'hérésie, de libéralisme anticatholique, contre les sièges de Rome, contre les anti-romains. Et alors, il faut beaucoup travailler que Notre-Dame, médiatrice de toutes les grâces, qu'on n'a pas voulu déclarer quand elle, n'est-ce pas, au Concile, qu'elle nous obtienne justement cette grâce de vaincre toutes les hérésies et de procurer à l'Église, n'est-ce pas, un nouveau renouveau. Thank you.